Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il y a une chef qui m'a dit un truc très très vrai. C'est un truc que je retiens vraiment. Qui m'a dit tous les médecins, ils ont tous leur cimetière. J'avais trouvé ça hyper glauque. Et elle m'avait dit, tu vois, en fait, t'as beau toujours faire, toujours tout ce que tu peux, le mieux que tu peux, tu feras toujours, pas forcément des erreurs, mais un patient où la prise en charge n'avait pas idéale, ou en tout cas, il s'est passé un truc que personne n'avait vu venir. Même si t'as pas une responsabilité directe, t'as trempé là-dedans et s'est passé un truc et t'étais partie prenante de la prise en charge. Et je m'étais dit, c'est dur quand même. Enfin, je m'étais dit, ouais, moi j'aurais pas de cimetière. Même si c'était complètement naïf, quoi.
Hippocrate, l'oreille interne. Une création sonore, Canal+. Épisode 4, un cimetière.
Ouais, maintenant j'ai un cimetière. Dedans, il y a 3 patients.
Madame K ?
Madame
K, vous m'entendez ? Madame Claire, vous m'entendez ? Serrez-moi la main, Madame Claire.
Heure de décès, 20h19.
Toki à la porte avant de rentrer, c'est un minimum. C'est le minimum pour n'importe qui. Que la patiente soit décédée ou que la patiente soit vivante.
Élodie.
C'est pas ton espace. Tu envahis un espace qui n'est pas le tien.
Urgentiste en premier semestre.
Et donc oui, à chaque fois, ça pour le coup, c'est systématique. À chaque fois, je rentre dans une pièce, je toque à la porte, quel que soit l'état de conscience du patient. Fondamentalement, je n'en sais rien si elle est vivante ou pas. Je sais juste que là, elle ne me répond pas. Et on m'a dit qu'elle était morte. Quand je l'appelle et que je lui parle, je ne l'ai pas examinée encore. C'est le moment où je crois que je rentre dans la chambre, je la vois et je lui prends la main. Et je lui demande de me serrer la main si elle m'entend, et je lui demande est-ce qu'elle m'entend. J'ai toujours l'espoir que mes patients soient vivants. C'est l'humain en moi qui veut juste pas trop être face à un cadavre, quoi. Parce que c'est juste... Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, que c'est quand même assez horrible. Tout ton être a envie de le ou la laisser tranquille, et de dire, cette personne est probablement décédée, on va la laisser tranquille. La première fois que j'ai dû faire un constat de décès, c'était à 8 jours du début de mon internat en novembre. Et je pense que c'était l'un des trucs que je me souviendrai tout le temps. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse partie, en tout cas si tôt, de mon métier. Et au tout début, ouais, ça a vraiment fait un choc. Quand tu as le proche qui est en face de toi en pleurs et qui attend le verdict un peu, tu vois. C'est un peu toi qui donne la sentence. Entre guillemets. Et donc, tu rentres dans la pièce, t'es les premiers à arriver en dehors de la fille de la patiente avec les infirmières qui étaient là. Il y avait une infirmière et une aide-soignante. Et je vais pour sortir mon portable, pour prendre le flash de mon portable, pour regarder le réflexe pupillaire, enfin le réflexe de la pupille, c'est quand t'es exposé à la lumière, ta pupille, elle se rétrécit. Et quand t'es dans le noir, t'as les pupilles dilatées. Et donc, tu fais ça avec le flash dans les yeux, et c'est un des derniers réflexes qui part. quand t'es décédé. Et donc, je vais pour faire ça. Et donc, je vais pour mon téléphone et il y a l'infirmière qui me donne l'heure en pensant que je vais regarder l'heure sur mon téléphone. Et naïvement, tu vois, sur ce moment-là, je me suis dit, ah oui, putain, faut que je regarde l'heure. Parce que l'heure de décès, c'est l'heure de décès constatée par un médecin. Et donc, tant que toi, t'as pas prononcé l'heure de décès, légalement, la personne n'est pas décédée.
Bon. Confirmation de la chambre mortuaire.
C'est des trucs auxquels on t'apprend pas, en fait, à annoncer, à faire un constat de décès. On t'apprend pas à annoncer un décès. Et donc, tu les apprends un peu sur le tas, comme ça. Et effectivement, à un moment donné, j'ai été incapable de dire heure de décès à ce moment-là. Et donc, je dis telle heure. J'ai juste l'heure, je me rappelle.
Ça, c'est quoi ?
Et c'est tout ce que je dis. Parce que je suis incapable de dire que c'est le décès de la personne. Je suis un peu... J'ai la voix un peu tremblante. J'ai les mains qui tremblent un peu. Je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce qu'on a pris dans les bouquins pour constater un décès ? Parce que, bon... Et je suis dans la pièce avec l'aide-soignante et l'infirmière qui étaient là. Et la fille est adossée au mur d'en face. Et en pleure, en train d'attendre le verdict, quoi. Et elle me regarde avec ce regard un peu de la dernière chance, tu vois, un peu suppliant en disant « Dites-moi que c'est pas vrai. » Et là, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était de baisser les yeux et de lui dire non de la tête. Et là, j'ai même pas besoin de lui dire, en fait, que sa mère était décédée. Et elle a compris tout de suite que c'était la fin et j'étais incapable de lui dire que sa mère était décédée à ce moment-là.
C'est horrible quand t'as quelque chose à faire, globalement. Allô, bonsoir, monsieur Bien. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital Beaujon. Je vous appelle concernant votre grand-mère, du coup. Ouais. Vous êtes où, là, actuellement? D'accord, bah écoutez, je viens descendre vous voir aux urgences dans ce cas. Moi je suis au quatrième. A tout de suite. Ils sont aux urgences en bas.
La confrontation à la mort en réanimation, elle est effectivement assez fréquente.
Nathanaël.
On finit par s'y faire sur la partie très organique, hein, sur le corps en tout cas.
Interne en cinquième semestre de réanimation.
En tout cas, l'émotion qui peut être générée, entre autres par la famille, quand elle est présente, c'est forcément un peu moins contrôlable. Ou alors, quand il y a du contre-transfert, ça c'est quelque chose effectivement qui peut, quand on s'identifie à certaines, je sais pas, dates de naissance ou signes physiques ou signes de... particulier, je sais pas, un métier comme ses parents ou que sais-je, ça peut effectivement générer, je pense, plus d'émotions.
Les histoires qui me suivent jusque chez moi, c'est...
Charlotte.
C'est les trucs où j'ai vraiment fait quelque chose et qui était inattendu, je pense.
Septième semestre, en gynécologie obstétrique.
C'est la fois où t'étais sur un accouchement hyper périlleux et il s'est passé une complication, t'as dû faire un geste dans l'urgence. Et l'histoire t'a frappée.
Moi, je sais que sur mon deuxième semestre de psychiatrie, j'ai une patiente qui s'est pendue dans la chambre des urgences, en fait.
Morgane.
Et j'ai été très touchée par ça. C'était un peu difficile.
En dernière année d'internat de psychiatrie.
En rentrant le soir, quand il y a des situations compliquées comme ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on ramène chez nous, hein, qu'on ramène dans notre esprit. Après, il y a des fois où on n'a pas le choix, hein, et on est là pour s'occuper des personnes. C'est notre métier, c'est ce qu'on a choisi, ça nous plaît de le faire et on vit avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de psychiatres qui eux-mêmes consultent pour se décharger de tout ça, et je pense que c'est une bonne chose.
J'ai jamais pleuré à cause d'un patient. J'ai déjà été touchée. Genre vraiment bousculé par les histoires des patients. Et tu protèges un peu comme tu peux, mais en fait, quand t'es touché, quoi. C'est un peu trop tard, quoi. T'essayes de colmater comme tu peux, mais en général, une fois que t'es touché, c'est fini. Enfin, t'es touché, et juste après, bah, tu fermes les vannes et tu passes à autre chose. Moi, en général, c'est je fais autre chose. Je me lance dans un autre dossier, je passe à autre chose.
Je pense que j'arrive à faire la part des choses entre ce qui s'est passé et ma vie. Après, quand c'est un truc tout blanc, j'y pense quand même si je ne suis plus à l'hôpital. J'en parle beaucoup. Je crois que ça aide à gérer. Donc, j'en parle beaucoup avec mes co-internes. Et puis, je raconte les choses aux gens qui m'entourent, en l'occurrence à mes colocs. Et j'aime bien parce que pour eux, je suis un héros un peu et c'est jamais de ma faute. Donc, c'est toujours très agréable. Même si j'y crois pas forcément à ce qu'ils pensent parce qu'ils sont, voilà, ils sont pas dedans. Mais bon.
Vous avez fait un petit bac sans moi. Qui a gagné? Ouais. Bah hier, on a fait un petit dîner avec les co-internes, donc il y a des chips et tout. Voilà. Du champagne. Des verres. Tu veux voir nos œuvres d'art? On a fait des trucs trop beaux. C'était hier soir. Hop, ça c'est la mienne. Il y a écrit, non mais c'est vraiment éthique. Il y a écrit à tour cervix, que puis-je faire pour vous? Et après, on a fait des petits dessins du tableau, content, pas content. Voilà. Alors. Ils sont tous pour moi. Là, il y a genre 5 patientes. Elles veulent plus voir.
On n'est pas un peu au bout du rôle?
Bah, moi, ça va à peu près, mais vous, je crois que vous êtes très au bout du rôle.
On n'arrête pas pour un dimanche.
Charlotte, est-ce les moments où je me suis sentie vraiment médecin et que même si j'étais pas vraiment sûre de moi, j'étais obligée de dire les choses, c'est les premières fois où j'ai vu des grossesses arrêtées aux urgences.
Alors là, je vois pas de sang. Je vous laisse écarter doucement. Je vais descendre un petit peu plus les fesses. Encore un peu plus. Ouais, parfait.
Et où du coup, mes patients, ils viennent te voir avec une grossesse et je sais pas, il s'est passé un truc là, elle a un peu mal ou elle saigne. Tu fais l'échographie et tu vois qu'il y a une grossesse avec un embryon où il devrait y avoir une activité cardiaque et en fait, il n'y en a pas.
Ça va ?
Et au début, moi, je regardais pendant des heures.
J'y vais avec le spéculum.
Et tu peux pas te tromper, en fait.
Je suis en train de regarder vos ovaires. Dès que j'en sais un peu plus, je vous le dis. D'accord ?
C'est tellement un énorme choc. Tu dois leur dire quelque chose. Enfin, c'est un coup près, quoi.
Pour l'instant, en tout cas, je vois pas de grossesse dans votre utérus qui serait en train d'évoluer.
Les annonces comme ça, tu vois tes chefs le faire. Tu vois ce qui est bien, ce qui est pas bien.
Ça vous fait pas mal, hein, tout ce que je vous fais.
Ou ce qui est moins bien, ou ce qui t'a moins plu. Et ensuite, c'est toi qui vas le faire à ta guise, en fonction de ce que tu considères comme étant adapté ou pas. Et des fois, moi j'ai eu la chance d'être en contact avec des chefs qui faisaient ça très très bien, parce que oui, il y a une façon de le faire.
Je suis bien en train de regarder autour de vos ovaires, hein, pour vérifier que la grossesse, elle n'est pas ce qu'on appelle extra-utérine.
J'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris. Je crois pas avoir eu un cours où on m'a appris à annoncer une grossesse arrêtée, quel que soit le terme. C'est hyper dur, et donc ça, c'est des situations où je me sens vraiment médecin.
Ok, j'arrête là. Je vous enlève.
Parce que là, je suis capable de leur dire, etc., même si c'est très dur.
Alors, j'ai pas trouvé la grossesse ailleurs que dans l'utérus. Le plus probable, c'est que vous ayez fait un tout au début de grossesse et qu'il se soit évacué tout seul. Donc c'est une fausse couche en tout début de grossesse, d'accord ? C'est malheureusement quelque chose qui est assez fréquent. Ça arrive à une femme sur trois au cours de sa vie. C'est toujours très triste. C'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que vous ayez fait, mangé, bu, dit, pensé. Ok ? C'est la malchance. Ok, je vais vous laisser vous rhabiller tranquillement.
La bonne empathie pour un médecin, c'est de savoir reconnaître l'émotion de l'autre sans la ressentir, là, ou de la comprendre sans la ressentir. Est-ce qu'il faut rester très distant? Est-ce qu'il faut mettre une main sur l'épaule? Est-ce qu'il faut s'asseoir à côté? Est-ce qu'il faut le prendre dans ses bras? Il faut savoir peut-être l'écouter et répondre en ce sens-là. Voilà.
Quand les gens pleurent, c'est important de lui prendre un peu le temps. Je leur donne des mouchoirs ou je leur propose un verre d'eau. Histoire de faire quelque chose et en même temps, tu peux pas les prendre dans tes bras, c'est pas du tout professionnel. Mais un petit signe que t'as vu qu'ils pleuraient, que tu comprends leur douleur et que tu réponds d'une certaine manière.
Ma juste empathie, elle passe entre autres par de l'écoute et donc parfois un silence, un vrai silence. Si on m'avait dit sur le papier ce truc-là, j'aurais trouvé ça assez pesant, voire un peu désagréable. En fait, pour les patients, ça a l'air d'être plutôt une source de, d'ouverture, d'invitation à la parole. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est souvent bienvenu, quoi, même si ce n'est pas dit explicitement. Voilà.
Si à un moment vous ne vous sentez pas très bien ou quoi, avant ou même là pendant le trajet, vous me le dites. Hein, d'accord, on va améliorer ça. Je suis conscient que ça peut être un petit peu éprouvant.
Voilà.
Je vous dis à tout à l'heure, madame. Dès que j'ai les résultats, je vous dis ça, ok?
Bon, vous avez été très courageuse, hein. Vous avez été super. Hein. Je me doute bien que c'est pas marrant tout ça. Je m'en suis bien conscient.
Je vous ai appris la best, la meilleure.
Moi, je sais que je vais éviter, même si c'est pas évident, la sympathie. Sympathie, c'est de ressentir la même chose que le patient. Il faut essayer de garder une certaine distance pour pouvoir être efficace, parce que si le patient est super triste et que nous, ça nous rend vraiment très triste aussi, ça va être difficile peut-être pour nous aussi psychiquement de gérer cette situation-là. Au début de mon internat, je racontais le soir en rentrant à mon chéri les trucs drôles que j'avais entendus dans la journée, parce que des fois les patients ont des idées délirantes, c'est tellement farfelu, c'est rigolo. Et en fait, au fur et à mesure de l'internat, c'est vrai qu'on y est tellement exposé que je ne raconte pas tout. Donc, il y a des choses très rigolotes comme des choses absolument dramatiques à vivre en psychiatrie. Donc, je pense que c'est important d'essayer d'avoir un certain équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, je me suis mariée au cours de mon premier stage de psychiatrie. Donc, maintenant, ça fait 2 ans. Et j'ai eu un bébé. Maintenant que j'ai une fille, je pense plus du tout au travail quand je rentre chez moi. À partir du moment où je quitte l'hôpital, c'est la course pour aller la chercher. Et puis, on rentre, c'est le bain, hop, on prépare le repas. Vite, là, elle dort. C'est vraiment... On enchaîne, quoi. Donc oui, je pense que la vie qu'on a à côté nous permet de faire face à toutes ces choses-là. Parce qu'on fait face quand même à des situations de vie, à des événements de vie plutôt difficiles.
Tu te caches derrière les rideaux. Oui, ça c'est parce que tu es fatiguée.
C'est quand j'ai changé de spécialité que je me suis rendu compte qu'on pouvait être médecin et avoir une vie personnelle à côté, que j'étais pas obligée de vivre pour mon métier.
Non.
Les premiers temps, j'arrivais très cadrée en me disant voilà, il faut que je voie lui, là il y a ça à faire, là j'ai tel compte rendu. Donc je restais un peu plus tard que mes chefs, que mon co-interne au début. Et c'est vrai que rapidement, ma chef, elle m'a dit, mais ici, on est en psychiatrie. Il n'y a rien d'urgent là tout de suite. Regarde ça, tu peux le faire demain, tu peux partir. C'est pas urgent, ce compte rendu-là, ça va servir à rien qu'on l'ait ce soir. Donc rentre chez toi. Et j'avais jamais entendu ça, quoi. Il y avait un fossé énorme, quoi, dans la manière de fonctionner. Dans mon autre spécialité, ça me semblait impensable de pouvoir gérer tout ça, d'avoir cette villa familiale à côté. C'était quelque chose de compliqué à envisager. Alors que là, en psychiatrie, c'est quand même plus serein d'envisager ces choses-là. Donc, c'est bien pratique.
Tu m'aides ? Merci.
Pas être... efficace là ce soir.
Un peu badant.
Je sais pas. Peut-être parce que ça fait genre 80 heures que je bosse.
Je j'ai pris les trans. Oh punaise, ça perd une sauvette. C'est embêtant. 6.
C'est compliqué de garder la patience quand tu sais que ça pousse au portillon et que t'as 10 patients encore à voir en 2 heures.
Lui, c'est une intervention générale, c'est un patient qui est vieux, qui chute.
Et que ça, il y a des gens qui attendent depuis 4 heures, que il faut que tu fasses le tri rapidement, que ce soit simple et efficace. Et là, ça s'apparente un peu à du triage, ce qu'on fait des fois.
On a pris les dosages et on a vidé la prise de sang.
Dans une situation, il y a tellement de monde que il faut aller vite et droit au but. Et t'as pas trop le temps de tergiverser sur pourquoi t'es là, quels sont tes problèmes, etc. Et bah là, du coup, tu fais de la médecine qui est moins belle, mais t'es un peu forcé par les... Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. T'as une médecine qui est moins noble, mais t'es un peu obligé par les circonstances de le faire comme ça.
Peut-être pas spontanément, il se plaignait pas spécialement.
Ça répond pas. C'est... Ça y est, je suis irritée, irritante, irritable.
Allô? Ouais.
Oui.
Ok, merci. Ciao. Souvent dans les maternités, il y a quelqu'un qui a le bip 1, c'est le bip noble. C'est celui où t'es appelé en salle de naissance, quand il y a un problème, etc. T'es en première ligne sur les trucs intéressants. Et il y a le bip 2, c'est un peu... Enfin, nous, il y a l'IDG belle gosse, ça, c'est celui qui a le bip 1. Et l'IDG sympa, c'est celui qui est bien brave et qui fait tout le reste. Ça, c'est le bip 2. T'es un peu... C'est le bip poubelle.
Allô? Oui, j'ai oublié, j'arrive tout de suite. À toute.
Donc, dès qu'il y a un problème, c'est un numéro où quelqu'un répond forcément toute la journée. Et donc, n'importe qui a un problème, il va t'appeler parce que forcément, ça peut être ton problème à toi. Et donc, on t'appelle pour tout et n'importe quoi. Donc, avant tout, une journée de bip 2, c'est répondre au téléphone et faire compte de bande. Je pense que c'est ça, ça commence par ça.
C'est qui?
Je sais pas, mais c'est genre à peu près tous les
ça,
quarts d'heure.
C'est le meilleur téléphone du monde.
Allô? Salut! C'est Johanna? Ah, cool!
Allô?
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 Ouais.
Ouais. Ah, parfait. Bah, merci. Et écoute, je fais autre chose, mais je vais venir.
Là, tout de suite maintenant, non, mais dans un quart d'heure, oui.
Tu remarqueras qu'on me demande des trucs et que je dis toujours oui. C'est l'interne poubelle. Allô?
Alors, le poulet.
Attends, ah, c'est le
18h.
Ça, ouais, ça doit être en cours.
Ajouter à la commande. Et les crevettes. Touc. Ajouter à la commande. Je vais y arriver quand même.
Bon, mon portable bug. J'en ai marre. Allez, on recommence. Je suis sûre qu'on va y arriver. Moi, je veux pas bouffer les plaies dégueu de l'hôpital ce soir. J'avais complètement oublié que c'était la Saint-Valentin en plus. Ouais, l'alternative, c'est les plateaux fantastiques de l'hôpital. Alors, c'est une grande découverte. C'est la même chose que ce que mangent les patients. C'est pas très bon.
Ah,
voilà. Non, ça dépend. Parfois, il y a des lasagnes. Les lasagnes, elles sont pas mal. Peut-être que ça aide à être en empathie de manger la même chose que tes patients. Ok, ça marche. On est sur un succès.
Ça a marché.
Il dit qu'au plus tard, ça arrive à 22h30. Il commande déjà la commande. Objectif, on a fini les urgences avant que notre vie n'arrive.
Ok.
Ok.
Hôpital Lariboisière, Paris.
Là, on se fait croiser par les futurs plateaux repas des patients. C'est incroyable, la petite voûte de pierre, c'est dans son jeu. C'est aussi le moment où tu peux croiser tout le personnel qui gère la partie logistique, entre autres. Et puis toute la partie voilà, avec la... salle de garde.
Bonjour.
Merci. La salle de garde, je la trouve quand même nécessaire. Il y a eu des semestres qui n'ont pas toujours été
parfaits. D'ailleurs, il n'y en a jamais qui seront parfaits, mais surtout des moments plus difficiles dans certaines journées. C'était une façon de se raccrocher en se disant, OK, ce midi, on va de toute façon tous se manger en salle de garde. Après, on se prendra un petit café, on peut jouer au baby-foot. C'est effectivement un lieu qui est un peu coupé du temps et des époques. Parce qu'il peut arriver effectivement de voir certains médecins ou internes fumer leur clope dans la salle de garde lors du café, ce qui est évidemment aujourd'hui insensé, sinon interdit par les lois de santé publique. Mais c'est toléré en ce sens-là.
Selon les stages, il y a ou non une salle de garde où du coup tu vas déjeuner dans une salle avec tout autour de toi, il y a des peintures hyper sexuées.
Là, il y en a quelques-unes. Historiquement, c'est quand même de mimer des scènes d'orgie avec des, on va dire, des protagonistes qui ont les visages des chefs F ou 2FE, des serveurs.
Tu manges ton mauvais poisson de la PHP avec une tête d'un ancien chef de service en train d'enculer la chef de service à côté. C'est un petit peu étrange.
Des caricatures, hein, évidemment. Mais c'est des caricatures où si tu connais le grand chef à l'origine de la caricature, tu sais qui c'est, et donc tu les reconnais, c'est ça qui est drôle. Mais depuis, elles sont datées, hein, elles sont très anciennes. Et du coup, bah, y en a quelques-uns encore dans certains hôpitaux que tu reconnais, mais c'est de plus en plus rare.
Les cornues qui sont peintes sur les murs des salles de garde, effectivement, je le vois, en tout cas, comme un espèce d'exutoire.
Et t'as les règles.
Les règles de la salle de garde.
D'une tape amicale, tes collègues tu salueras, ça c'est un truc qui reste dans toutes les salles de garde.
En salle de garde, toujours en blouse, tu viendras. Toujours soigneusement, tes instruments tu cacheras. Toujours près du dernier assis, ton cul posera.
Le règlement de la salle de garde est appliqué à la lettre.
Jamais de ta bouche, un terme médical ne sortira.
Quand tu ne respectes pas, tu sors de cette règle, tu as un gage.
Jamais triste ou sérieux, en salle de garde, ne restera.
Il doit y avoir imité une position de Kama Sutra.
L'administré que ses lois n'observera. La porte de la salle de garde ne passera.
L'autre gage, c'est que tu dois mimer un cri d'orgasme.
Et au café ou au self, jamais ne se consolera.
C'est pas mon délire, personnellement. Parce que même si je pose la question pipi, caca, cul à tous mes patients, moi, personnellement, c'est pas trop mon délire. Mais ça fait partie du décor habituel. Moi, je segmente beaucoup ma vie parce que je considère que c'est comme ça que je reste saine d'esprit. Et donc, au travail, c'est hyper banal, effectivement, pour moi, de parler de caca, de pipi, d'hémorroïdes, de prostitution, de drogue, de cocaïne, de choses dont tu parles pas. Et tu juges pas ce que les personnes te disent en face. Tu prends les infos telles qu'elles sont. Et puis, libre à eux de faire comme bon leur semble. Après tout, c'est leur vie, c'est leur corps. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais ça va pas me choquer outre mesure. Parce que t'entends des trucs tellement chelous que t'apprends en étant médecin à pas juger. Je pense c'est surtout ça. C'est surtout qu'entre nous, on se juge pas. Et quand on parle des patients, par contre... C'est on est un peu plus, ça nous fait un peu marrer les histoires où quand les gens ils se mettent des carottes dans les fesses, qu'ils la mettent dans le mauvais sens, parce qu'il y a un sens pour mettre une carotte dans les fesses. Si tu le mets côté large d'abord, il y a un appel d'air qui se fait et ta carotte elle rentre dans toi, alors que si tu le mets côté fin d'abord, et ben va pas rentrer dans toi. Et tu savais pas ça, et ben voilà. Du coup, quand ça arrive que les patients mettent ça, mais ils mettent le côté large d'abord, bah oui, parce que le côté fin, c'est pas drôle. Donc ils mettent d'abord le côté large, et ça rentre dans la personne. Et du coup, bah, tu te retrouves à chercher la carotte, quoi. Ce qui est une situation improbable. Et du coup, bah, souvent, il faut qu'ils se fassent opérer pour enlever la carotte, parce que c'est quand même long, hein, le végétal. Et il faut aller chercher, parce qu'il faut pas le laisser là. Et donc, tu te retrouves dans des situations où, sur le coup, quand le patient il dit ça, tu dis... D'accord, et donc toi t'es professionnel. Le gars il vient te dire qu'il s'est mis une carotte dessus. Et ça c'est quand il est clairvoyant et qu'il te dit qu'il est honnête avec toi. Et qu'il te dit que bon, voilà, quand il te dit pas qu'il s'est assis sur une carotte. Enfin, et quand tu racontes ça à tes potes, t'es mort de rire. Enfin, tout le monde s'engraine les uns avec les autres et puis ça devient un truc, genre d'un seul coup. Enfin, et parce qu'il n'y a pas de tabou, parce que ça fait rire tout le monde. Et voilà, mais bon après tu vas soigner les patients, il va se faire opérer, tout va bien.
Ça fait mal ou ça va? Ça va ?
Je dirais pas qu'il est trivial, mon quotidien. Il s'inscrit, je trouve, dans un espèce d'automatisme de la fonction de médecin réanimateur. Et du coup, le réflexe de voir un patient nu pour l'examiner dans sa globalité, il y a aussi ce réflexe de le prévenir, même quand il dort, c'est un truc qui est resté. Tout comme je me rends compte souvent que je frappe à la porte des chambres de réa alors que le patient dort, c'est un truc qui est resté.
Je vous examine. Hein.
Dénuder les gens, moi je les mets jamais nus complètement.
Je regarde, hein, je me permets.
Postulat de base, je trouve que ça se fait pas. Et puis c'est respect de la pudeur du patient. Et sinon, pour les trucs qui sont un peu gênants, genre les touches rectaux ou les examens de l'organe génital pour les hommes ou pour la femme, en général, je le fais en dernier.
Regardez-moi. Hop, je vous embête, excusez-moi.
Pour me dire, bon, c'est fait, comme ça, il me revoit plus, parce que je sais qu'après, c'est gênant de reparler à la personne qui t'a vu dans un état de vulnérabilité. Donc, je le fais tout à la fin. Comme ça, j'ai fini, je leur parle plus, je m'en vais. Enfin, je leur dis, c'est normal, pas normal, vite fait, tu vois. Et après, je m'en vais et je les laisse tranquille.
Super, génial. Alors, ok.
L'environnement dans lequel tu viens, tu t'insères quand t'es médecin, on a beaucoup de liberté. On a accès à quasiment tout chez quelqu'un. Quand t'es médecin, les langues se délient, tu peux poser les questions les plus intimes à tes patients quand t'es médecin. Et pas tout le temps, mais souvent, ils te répondront honnêtement. Enfin, t'en as qui baragouinent, mais globalement, les gens sont quand même comme un livre ouvert devant leur médecin et font une confiance aveugle à leur médecin.
T'es leur médecin et. Et ils disent tout, quoi. C'est des gens que t'as jamais vus. Ils vont se mettre nus devant toi, ils vont dire leurs pensées les plus intimes, ils te laissent voir des choses hyper intimes et. Je trouve qu'il faut être à la hauteur de cette confiance qu'on te confie.
C'était le 4e épisode d'Hippocrate, l'oreille interne. Une création sonore Canal+. Dans le prochain et dernier épisode, nos 4 jeunes médecins dresseront le bilan de ces derniers mois d'internat. L'hôpital a-t-il fait d'eux des adultes? Que leur reste-t-il à apprendre? Hippocrate, l'oreille interne est une série en 5 épisodes écrite par Anna Buis et réalisée par Clément Nouguier. À retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.